Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel.
Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis d'être avec vous pour décortiquer, décrypter l'actualité tech de ces derniers jours. Alors c'est Anthony Morel là, qui prend le relais, c'est pas François. François qui est en vacances, on l'embrasse évidemment. Et puis bah voilà, je vais essayer d'être à la hauteur évidemment. Il m'a laissé les clés du camion, on va faire ce qu'on peut. Mais vous inquiétez pas, vos habitudes vont pas changer. Installez-vous confortablement, que ce soit en radio, en télé, sur YouTube, en podcast, sur Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. Installez-vous, c'est parti. Et oui, je vous le disais, on ne va pas déroger à nos habitudes, de quoi je me mêle en deux parties. Tout à l'heure, on sera avec notre ami Lionel Paris, notre consultant tech, pour parler d'un marché dont on ne parle pas très souvent dans De quoi je me mêle. C'est celui des caméras de vidéosurveillance, caméras de surveillance d'intérieur. C'est vrai qu'il y a un marché en ébullition. Il y a beaucoup, beaucoup d'innovations dans ce domaine, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il nous a fait un petit benchmark des meilleurs produits sur le marché. Mais avant ça, on a énormément de sujets à aborder dans notre club de la presse IT avec cette semaine. Mélinda d'Avansoulas, salut Mélinda.
Salut Anthony, bonjour Damien.
Bonjour. Journaliste maison évidemment, Tech & Co, en ligne, à l'antenne, partout Mélinda, on ne la présente plus. Et puis Damien Licata, salut Damien.
Bonjour à tous.
Journaliste tech au Parisien. Alors vous ne quittez plus en fait, parce que vous étiez en reportage en Suède, vous venez juste là.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
On rentre de Suède, on est allé parler d'un sujet qui intéressera, allez on va dire ceux de tous les âges au mois de mai, ce seront les 15 ans de Minecraft.
Ah.
Donc nous sommes allés chez Mojang. Voilà exactement, qui est le studio créateur du jeu.
C'était bien, vous êtes bien amusé?
C'était assez intense, un peu froid au début, ouais, alors on est d'accord sur ça, mais c'est vrai que c'était assez intense et intéressant.
Bon, on en reparlera d'une autre fois, les 15 ans de Minecraft, c'est vrai que c'est un énorme phénomène aussi, Minecraft, l'un des jeux les plus vendus de l'histoire, je crois.
Le plus
ils
vendu
sont numéro 1 toujours.
Plus de 300 millions de joueurs, ils sont numéro 1, mais
c'est plus que GTA?
Ah ben oui, GTA, ils sont à 182 ou quelque chose comme ça.
Ah ouais?
Ah oui.
je les voyais un peu derrière.
Ah ben, quand tu les vois, justement, tu ne t'attends pas à voir face à toi le studio du plus gros jeu, le jeu le plus vendu au monde.
Vraiment balèze, et j'imagine qu'on en parlera dans multijoueur.
Évidemment.
Forcément.
Spécial, un multijoueur spécial Minecraft.
En attendant, on a plein de sujets à aborder dans l'actualité, les amis, de cette semaine. On va parler du gros coup de pression sur TikTok. Est-ce que TikTok va être interdit aux États-Unis? On s'achemine quand même vers ça, peut-être. En Europe, on verra. En tout cas, il y a plein de questions à poser autour de ça. On va parler du Vision Pro, tiens, qui est peut-être en train de faire flop. Apparemment, Apple est en train de revoir ses ambitions à la baisse. On va parler d'une IA incroyable qui transforme les photos en vidéo. Mais on va commencer, on va parler un peu d'IA d'ailleurs, avec Meta qui mêle turbo dans l'intelligence artificielle qui passe la seconde. On sait qu'il y a cette course effrénée entre tous les géants de la tech sur l'IA, mais là c'est vrai que Meta a multiplié ses annonces ces derniers jours. On va les égrener un petit peu, mais moi il y en a une qui m'a particulièrement tapé dans l'œil, c'est le cas de le dire, puisque ça concerne les lunettes, les fameuses Meta. Alors celles qu'on a ici, c'est les vieilles, c'est la première version, hein. C'est Meta Ray-Ban, donc lunettes de soleil avec les petites caméras intégrées qui permettent de filmer, de diffuser du flux, etc. Mais là, elle se réinvente à la sauce intelligence artificielle. En gros, c'est une mise à jour, c'est ça, Mélinda, qui a été intégrée par Meta et qui permet de faire plein de choses nouvelles.
En fait, ils en parlaient depuis très longtemps de Meta AI, qui est un peu leur IA maison. Alors, Meta, là, ils ont annoncé en plus l'arrivée de Llama 3, qui est leur modèle de langage à eux. Donc, ça va être dans plein de choses, dont notamment, enfin, Meta AI, qui est censé t'apporter de l'intelligence dans tes petites lunettes. Alors, mauvaise nouvelle, Anto, je suis désolée, ce ne sera pas pour la France.
Ah oui, donc ça ne sert à rien que je fasse le cake avec les lunettes.
Pas encore.
Ce ne sera pas encore pour nous.
Ça vaut bien pourtant, non?
Mais
oui,
magnifique.
Très bien, ouais. Magnifique.
Je pense qu'en intérieur, en plus, c'est super avec les lumières.
Ça dit, le studio est très éclairé, donc
c'est
pas mal.
Là, ça peut servir. Mais en fait, à quoi ça va servir? Alors, aux Américains et aux Canadiens, évidemment, qui, eux, certains l'avaient déjà en fonction bêta depuis le mois de décembre. En fait, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'elles vont vous aider à, comment dire, augmenter réellement le monde qui vous entoure d'informations. On lui demandera en disant « Hey Meta », évidemment, avec mon magnifique accent. Par exemple, s'il y a un mot dans une langue que vous ne comprenez pas, vous êtes en Suède, au hasard, et vous ne comprenez pas la carte, ça traduira. Et donc, dans l'oreille, ça vous traduira alors dans, en anglais évidemment, parce que pour le moment c'est déployé dans des pays anglophones. Ce qui a marqué, ça pourra vous donner des informations si vous lui demandez, vous donner une recette, vous aurez les lunettes sur la tête. Alors, pas la version que tu avais avec les filtres sur les verres, mais le modèle transparent qui
le
existe.
Le modèle normal, quoi.
Ouais. Le modèle standard. Ça pourra vous donner eh ben, dans l'oreille des recettes.
Ça te murmure à l'oreille, en fait. Parce, que ouais. c'est, parce qu'à l'intérieur,
ça,
en fait, des montures, tu as des écouteurs.
En fait, il y a des petits écouteurs, franchement, qui sont plutôt de bonne qualité. Voilà. Alors, pas de réduction active de bruit, évidemment, hein, pas sur des choses comme ça.
C'est compliqué, oui.
Mais c'est pas mal. Et puis surtout, comme tu le disais, ça peut filmer du flux. Désormais, le modèle, les Ray-Ban Meta 2. Et donc là, vous pourrez faire des appels vidéo et les gens verront vraiment ce que vous voyez, vous.
Ah ouais.
Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce sera sur Messenger et WhatsApp, je crois, dans
oui,
un premier temps.
Fait, c'est ça. Pour commencer en vidéo, l'avantage, voilà, c'est que ça permettra d'ouvrir le monde autour de vous. Vous regardez un panneau dans une langue étrangère, ça va le traduire quasiment automatiquement. Il y aura toujours un petit temps de latence. Il y aura toujours besoin d'avoir une connexion à Internet.
Mais il y a c'est toujours quand même besoin de son smartphone aussi, évidemment.
Oui, il faudra quand même avoir son smartphone à portée, au moins du Bluetooth. Donc, mais il y aura quand même une petite révolution. Derrière ça, on va augmenter le monde autour de nous. Et...
En fait, c'est comme si tu avais Google Lens à l'intérieur de tes lunettes, finalement.
C'est ça.
Dans un la plante ou l'arbre, tu vas lui demander et il va te décrire ce
avec
qu'il y a
devant toi. Avec l'option vocale quand même en plus.
Oui, c'est ça.
Donc on peut potentiellement imaginer peut-être qu'à un moment ils vont faire un mode de traduction où quelqu'un pourra nous parler et nous en direct on aura le retour de la traduction.
Il n'y a pas d'affichage. Voilà, le seul truc pour le moment c'est qu'il n'y a pas d'affichage sur les écrans, c'est vraiment tout se fait à l'audio. Donc c'est autre chose.
Non, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas finalement, pour moi, cette mise à jour-là, elle donne de l'intérêt à ces lunettes qui, pour l'instant, n'étaient qu'un gadget. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le fait d'avoir deux petites caméras, de pouvoir filmer, de faire du flux et de pouvoir diffuser ça sur Instagram, à part trois influenceurs, puis, je ne sais pas trop à qui ça parlait, non, finalement.
Ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est-à-dire de filmer, par exemple, les gens à leur insu, ce genre de choses, ça prend un autre intérêt, parce que maintenant, on est dans la communication, on est dans l'échange avec son monde extérieur, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On leur reprochait d'espionner les gens, on leur reprochait plein d'autres choses.
Oui, mais t'avais le petit halo.
Ouais,
il faut voir quand même en plein jour
je trouve que ça se voit. Mais c'était drôle de dire regardez, vous voyez, si vous faites bien attention, vous verrez que ça vous filme. Super.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais pour le côté gadget, pour te dire, parce que du coup, moi, je les ai la première version. J'ai dû les utiliser deux fois en mode caméra. Après, je les ai utilisés en mode lunettes de soleil.
lunettes de soleil et musique.
Oui, et musique, c'est pas mal. T'as raison.
Mais tu sais qu'en fait, je me suis aperçu parce que j'étais comme toi. Ça fait des super lunettes de soleil. Hein, ça reste des Ray-Ban, donc c'est quand même pas mauvais. Pour la musique, c'est plutôt sympa. Eh ben, je me suis aperçue de la fonction photo de son intérêt. C'est qu'une fois, j'étais à une réunion de famille, je vous raconte ma vie deux secondes, et je les avais en lunettes de soleil, moi, et on me dit, c'est quoi et tout, ça fait quoi? Je dis, ça peut prendre des photos et des vidéos. Je les ai posées sur la table, tout le monde s'est marré avec, et j'ai une quantité, en fait, d'images de cette réunion de famille que je n'aurais pas eu parce que j'aurais jamais eu le réflexe de prendre des photos. C'est très bête.
C'est le petit effet waouh de la première fois.
En fait, ça peut avoir une vraie utilisation. Mais moi, oui, quand je les ai, à part photographier deux trucs pour me faire marrer, ça m'a pas servi à grand-chose.
Et un petit tip pour les cyclistes, quand vous les portez à vélo, vous pouvez écouter de la musique et vous n'êtes pas soumis à l'amende de 135 euros pour porter des écouteurs.
Exactement.
Parce que tu continues à
pas coupé de votre environnement.
Surtout aussi parce qu'ils n'ont pas pensé à la mettre dans la liste, hein. Mais ça, c'est
possible aussi. Non, mais franchement, l'arrivée de cette IA multimodale, ça change quand même pas mal de choses, je trouve. Et la question qui se pose derrière, parce qu'en ce moment, c'est un peu le Graal là, dans la tech, on en parle quasiment toutes les semaines, c'est quel va être le form factor idéal pour intégrer l'intelligence artificielle. On a parlé de l'AI PIN la semaine dernière. Bon, ce petit badge connecté qui n'a pas connu des débuts incroyables, parce que les critiques sont catastrophiques, c'est probablement pas le bon form factor. Il y a le fameux Rabbit dont on a parlé aussi. On ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que les lunettes, ça pourrait être l'objet de choix pour intégrer l'IA et peut-être un jour remplacer nos smartphones? C'est plausible ou pas du tout?
Alors oui, et tu sais que ça a été pendant très longtemps la théorie un peu d'Apple, de dire si on doit apporter des informations au-delà d'un smartphone, quelque chose à porter. Donc ils ont tenté la montre, mais ce serait le plus évident. Et évidemment, on savait qu'eux, ils travaillent sur un modèle de lunettes. Le Vision Pro n'est qu'un des aspects, un des pans de ce qui travaille sur vraiment le côté réalité mixte, augmentée, virtuelle, appelez-le comme vous voulez. L'avantage des lunettes, et tu vois, pour avoir vu le AI PIN en fonction, et m'être dit, mon Dieu, j'ai absolument pas envie d'avoir au niveau de la poitrine quelque chose qui me hurle dessus.
Tu l'avais testé au Mobile World Congress.
Ouais, et j'avais trouvé ça... c'était pas pour moi, parce que déjà, ça ne te débarrasse pas du smartphone. Bon, là non plus, hein, parce qu'on est obligé de l'avoir de toute façon. Mais je trouve que l'idée d'avoir quelqu'un qui te murmure réellement à l'oreille, c'est beaucoup plus intéressant. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est toujours ma question. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture, d'intérêt sur ça. c'est pour l'accessibilité. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui ont ou des prothèses auditives. Pourquoi Apple travaille sur la prothèse auditive adaptée à son écosystème ? C'est pas sans raison. Et je pense que là, pour le coup, on a un form factor intéressant et Meta, ils sont bons là-dessus pour avoir senti. Alors eux, c'est toujours dans l'idée d'un métavers, hein, donc faut pas non plus se leurrer. Mais ça, c'est un bon point d'entrée pour moi parce que les lunettes, ben voilà, toi t'en as, moi j'en ai ouais. Quand je suis hors plateau là. C'est plus facile à utiliser.
Le mot point d'entrée est intéressant parce que je pense qu'effectivement, dans la stratégie de Mark Zuckerberg, c'était de dire qu'il y a eu un énorme échec avec les Google Glass. On a essayé de nous imposer ces lunettes qui ressemblaient à rien avec de la réalité augmentée, des caméras, etc. Et là, ils sont partis d'une paire de lunettes de soleil assez basiques qui ressemblent à des lunettes de soleil. Ils ont ajouté dans un premier temps la caméra. Là, ils ajoutent la brique d'intelligence artificielle. Et peut-être que la dernière brique, ce sera de mettre de la réalité augmentée, d'intégrer un écran, de la projection, etc. On pourrait aller vers ça, en fait.
Ou ils prennent le contre-pied en disant que la philosophie, c'est d'arrêter de mettre des écrans forcément devant les yeux des gens, se concentrer sur l'audio. Ils ont choisi la bonne marque, il y a le design, il y a tout ce qu'il y a derrière. Mais je pense qu'au contraire, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, je pense qu'ils vont quand même réserver ça à leur casque d'intérieur, du type les Quest. Et puis rester sur cette division-là pour se concentrer sur l'audio.
Là où je rejoins Damien, c'est que je pense que l'avantage que peuvent avoir les Ray-Ban Meta avec de l'IA par rapport à HoloQuest, c'est justement que ça ne te sort pas de ce que tu es en train de faire. Le problème des Google Glass, moi je les avais essayé à l'époque, alors au-delà du fait que le form factor n'était pas encore optimisé, c'est que les informations sous tes yeux et n'importe quelle tentative de lunettes connectées aujourd'hui qu'on a, ça te perturbe. Qu'on le veuille ou non, ça te perturbe. Tu as ta carte, tu es distrait de ton quotidien. Là, finalement, tu sais, quand tu avais les kits main libre des oreillettes, des gens qui te parlent dans l'oreille, c'est la même chose en fait, c'est la même idée. Tu peux continuer de marcher, tu peux faire attention à ce qui te passe, à ce qui se passe autour de toi, et puis on ne va pas l'utiliser en continu. C'est un point d'entrée de temps en temps vers autre chose. C'est là où je pense que c'est très fort.
Et c'est un compagnon du smartphone. Donc là, l'idée, c'est pas de remplacer le smartphone, c'est vraiment d'avoir un objet compagnon en réalité.
Et puis surtout, ça va s'adresser aux gens qui sont à l'extérieur essentiellement, vu que voilà, c'est un modèle qui est solaire essentiellement.
À part Anthony, en intérieur, personne n'a les lunettes.
Ça va être complémentaire.
Moi, j'aime bien, ça me donne un petit style, j'aime bien.
C'est vrai.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, au-delà des lunettes, c'est quand même de voir les ambitions de Meta dans l'intelligence artificielle. Là, ils l'ont dit, il y a eu la publication de leurs résultats financiers et Zuckerberg a fait toute une présentation là-dessus en disant oui, nous, on veut être les numéro un mondiaux de l'intelligence artificielle.
Il a fait flipper ses actionnaires.
Oui,
aussi.
C'est ça. Au passage, ça s'est pas très bien passé parce que les gens disent oulala, mais attendez, mais quand est-ce que ça rapporte de l'argent tout ça ?
À chaque fois qu'il annonce des trucs comme ça, ils ont compris. Ouais. La première fois, ils se sont tous emballés. Il a inventé Meta. Ils ont vu que derrière, c'était pas terrible. Maintenant, quand il fait des annonces IA, les actionnaires, ils ont quand même les.
Ah oui, parce qu'il y a de la monétisation derrière. Bon, on va pas rentrer dans les détails financiers, mais il y a quand même un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire de dire on va mettre de l'argent, le paquet de la recherche et développement dans l'IA pour devenir les numéro un mondiaux. Ok, énorme potentiel, mais derrière, c'est comment tu gagnes de l'argent avec ça. Mais cela dit, tu parlais de Lama. Tu dis Llama, toi. Moi, je dis Lama.
Comme en espagnol, Lama.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est un Lama, quoi. Voilà.
Peut-être pour éviter le Lama.
Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien. Alors, non, mais grosses ambitions aussi. C'est-à-dire qu'ils ont intégré aussi l'IA. On ne l'a pas encore en France non plus. Et ça aussi, il faut qu'on se pose la question, parce que probablement pour des questions réglementaires. Mais maintenant, tu as de l'IA dans Facebook, dans Instagram, dans WhatsApp. Tu as la possibilité de faire une recherche contextuelle en utilisant Llama comme tu pourrais utiliser ChatGPT directement dans les applis. Tu peux générer des images sur WhatsApp pour agrémenter ton texte. Enfin, là, on voit qu'il y a quand même des trucs qui sont en train de se mettre en place, Damien.
On voit clairement qu'ils sont à la même hauteur que ChatGPT, qu'ils ont rattrapé le petit retard qu'ils avaient à l'allumage parce qu'ils avaient tout misé sur le métaverse pendant quelques temps et là ils sont bien rattrapés. Puis surtout, ils ont plusieurs divisions. Ils ont le côté commercial avec les Ray-Ban, le Llama 3, c'est pour alimenter la communauté scientifique, donner des outils aux gens.
Donc
c'est très pratique. Ils arrivent et surtout, il y a plein de gens qui vont bosser pour eux de manière indirecte, mais en donnant Llama 3 en open source, il y a plein de gens qui vont avoir des produits qui vont populariser l'IA et ça va leur revenir ensuite dans les caisses.
Alors c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez vu le graphe de présentation justement de Llama 3 où il se comparait aux autres, ce qu'il faisait mieux.
Ouais.
C'était Claude le plus proche d'eux, après c'est Mistral.
Ouais. En fait, ça change toutes les semaines quasiment parce qu'ils font des benchmarks dès que tu as une nouvelle IA qui sort. Donc tu as le Claude 3 qui sort et ChatGPT.
C'était ChatGPT 3.5.
Okay. Ils ne se comparaient pas aux 4.
Non, ils ne se comparaient pas aux 4.
C'est un peu facile.
Non, mais c'est ça qui est intéressant.
Ouais.
Parce que je pense qu'ils prennent les modèles qui sont les plus ouverts au public.
Bien sûr.
Et 4, c'est sur abonnement, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises.
Toujours.
Donc je pense, ils ne sont pas bêtes. Ils veulent que ce soit utilisé directement par les utilisateurs. Donc ils montrent, ça a l'air de partir dans tous les sens, leur utilisation de l'IA. Mais je trouve qu'elle est bien pensée pour une fois. On ne nous parle pas de métavers et de machin. On dit, vous êtes sur Facebook, voilà ce que vous pourrez faire avec. Vous êtes sur Insta, Et je trouve que la stratégie, elle est très très bonne sur l'approche de l'IA pour le grand public, sans effet de démonstration comme avait fait ChatGPT de faire des trucs waouh dans tous les sens.
C'est vrai que le métavers, ça passe quand même un peu au second plan, même si Zuckerberg dit qu'il continue à y croire et il continue à mettre des milliards dedans.
Il prononce encore le mot ?
Je crois qu'il le prononce encore.
Parce que ça faisait des mois que c'était banni de son langage.
Hein. Bah, en tout cas,
c'est comme Amazing chez Apple. Hein.
ils se sont rendus compte que c'était trop caricatural.
Ils mettaient un million dans la caisse à chaque fois.
Ouais, c'est ça. Non, mais, oui, bah, oui, c'est ça. La tirelire pour eux, c'est un euro, mais eux, c'est un million, forcément. Non, alors je crois qu'ils continuent à en parler, ils continuent à y croire, mais enfin, on voit bien que c'est quand même vraiment au second plan par rapport à l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en reparler. On va rester sur l'intelligence artificielle avec un outil. On parlait de cette course effrénée et de ces outils, mais j'allais dire, il n'y a pas une semaine sans que tu aies un nouvel algorithme qui arrive avec un effet waouh complètement dingue. Et là, cette semaine, ou ces derniers jours, on va dire, c'est Vaza. Alors, bon, j'en étais resté aux biscottes Vaza, mais non, apparemment, c'est aussi une intelligence artificielle.
Nous aussi, on vient de Suède, donc forcément, les Vaza.
Ah bah oui,
on en a mangé.
On en a mangé.
Vas-y, Vaza.
C'est toujours aussi sec, mais oui.
Bon, bah voilà. Donc, il y avait le Vaza biscotte et il y a le Vaza 1 intelligence artificielle de Microsoft, assez dingue, qui permet donc, c'est, alors quelqu'un nous le raconte, de transformer une image en vidéo, une photo en vidéo, c'est ça, Belinda,
en fait ? Pour résumer, on va prendre une photo de vous figée, photo de vacances, on va récupérer un extrait sonore de l'émission, par exemple, où on entend parler, et eh bien, on te fait dire n'importe quoi derrière en vidéo, puisque l'image pourra s'animer et avec ta voix.
C'est génial.
Ça, c'est quand même, alors,
c'est assez bien fait.
C'est aussi génial que c'est flippant.
Ouais, c'est ça.
Parce que bonjour les deepfakes.
On voit les images, hein, pour ceux qui n'ont. Voilà. Sinon, venez nous voir, regardez sur YouTube.
Regardez
il y a plein
les
de
images.
Démos. En gros, vous avez en bas à gauche, donc c'est la photo d'origine, hein, donc une photo, une image figée par définition. Et on lui fait dire à cette dame absolument n'importe quoi. Et donc ses lèvres s'animent, ses yeux, son visage.
Pour vous donner une idée, pour ceux qui nous écoutent, visuellement, c'est ce qu'on a vu beaucoup circuler à une époque, des photos de la Joconde qui se mettait à avoir la bouche qui parlait. Sauf que là, c'est puissance 10 000 au niveau du réalisme et des mouvements du visage.
On est dans une synchronisation labiale qui n'est jamais vue. Tous les doubleurs de films du monde entier en rêveraient.
Ou pas.
C'est peut-être la fin de leur métier, mais comme dans beaucoup de métiers dans l'IA.
Ils vendront leur voix et puis on mettra ce qu'on veut dessus. Exactement. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a fait flipper, c'est les mouvements du visage.
Ouais.
Alors, il reste c'est un peu comme pour tout, c'est-à-dire vous regardez les yeux et c'est là, en général...
En regardant dans le détail, c'est vrai qu'on voit que les yeux, il y a un problème de synchronisation.
C'est comme le réalisme dans les jeux vidéo, c'est au niveau des yeux.
Sur la Joconde, ça fonctionne moins bien. On voit qu'il y a un effet déformé.
En fait, c'est les yeux. Les yeux restent toujours figés. En fait, c'est les yeux qui manquent d'expression et c'est ça qui trahit vraiment le truc. Mais je trouve que au niveau, quand ça sourit, il y a vraiment le visage qui s'anime en fonction.
Ouais, c'est dingue.
Là, on est passé sur un truc qui est... Moi, ça me fait flipper.
Moi, ça m'a fait penser immédiatement au, tu sais, dans les films Harry Potter, les journaux, avec les photos qui prennent vie, tu sais, et t'as vraiment cette sensation-là.
Les tableaux dans Harry Potter, c'est vraiment ça. Quand ils commencent à s'animer, Et en fait, si c'est un sujet qui est fait pour regarder à peu près vers vous, dans les vidéos qu'ils mettaient, ça peut passer, mais il y a toujours un moment en fait, où le regard trahit. Mais si on regarde en global, c'est d'un réalisme assez flippant. Quoi.
Damien, flippant ou enthousiasmant ?
Ça fait peur, notamment dans le cadre de campagne électorale, où on va pouvoir faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et là, la boîte de Pandore est ouverte.
Là, on est sur du deepfake plus. Quoi.
Alors, ils disent, ça reste quand même un projet scientifique. On essaie de sensibiliser les gens. Ça va aussi favoriser l'inclusion en faisant parler des gens qui auraient peut-être des problèmes d'élocution, qui seraient du coup maintenant avec une autre voix, avec un avatar. Le problème, c'est qu'il y a cet usage-là qui est raisonné. Et puis après, il y a tous les excès, tous les dérives.
Mais il faut préciser que cet outil, en fait, on n'y a pas accès pour l'instant.
Non, c'est
un projet de recherche de Microsoft. Et ils ont
c'est
dit.
C'est technique, un code.
Tant qu'il y a des risques de dérive, on ne mettrait pas en accès au grand public. Mais enfin bon,
ils l'ont montré.
Et il y en a d'autres qui vont sortir la même chose. Enfin, ça va arriver, c'est sûr.
Il faut savoir que Nvidia, par exemple, l'IA d'Nvidia était capable déjà de prendre une photo et de l'animer en vidéo, de travailler sur la représentation. Donc je pense que de toute façon, ils ne sont pas les seuls sur ce marché-là. Ça va venir vite. Le premier qui lâche ça dans l'arène, c'est foutu.
Clairement.
Parce que c'est un outil qui peut faire beaucoup rire les gens et être très utile, bien utilisé.
Non mais
c'est une catastrophe.
C'est comme à chaque fois, c'est un outil, mais on peut voir aussi le côté positif quand même. Moi, je pensais à des applications pédagogiques. Enfin, t'imagines, tu vas pouvoir discuter en langage naturel avec un portrait de Napoléon qui va s'animer, qui va te raconter la bataille d'Austerlitz. Enfin, c'est incroyable comme outil. Dans le télétravail, t'es fatigué, tu veux pas montrer tes cernes en visioconférence à tes collègues, t'envoies une photo, tu commences à parler
très
et c'est
spécifique.
Ton visage qui s'anime.
Ah oui, alors ça, j'aurais pas pensé.
C'est pas mal.
J'avoue là.
Alors tu vois que moi, j'allais te citer plutôt le coup du Van Gogh. Tu sais, quand il y avait eu l'exposition, avait été montré aussi.
Tu pouvais parler à Van Gogh.
Tu pouvais parler à Van Gogh parce qu'ils avaient réussi avec l'IA à recréer sa voix et à faire quelque chose de son visage. c'était déjà pas mal.
Ouais.
C'était déjà bien foutu, on pouvait échanger, c'était rigolo. Là, on est quand même sur un truc d'un autre niveau. Mais là où c'est flippant aussi, c'est la capacité vocale. Parce que ça veut dire qu'à partir d'un petit extrait, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, ça c'est vrai. Mais souvenez-vous qu'aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, ils ont réussi enfin, les acteurs, à négocier un texte pour que les acteurs de doublage soient protégés, pour que leur voix soit protégée et ne puisse pas être utilisée. Et on leur fout ça dedans, dans les pattes, je pense qu'ils ne vont pas être hyper contents.
Bah oui, c'est toujours le même problème. Enfin, c'est comme je dis toujours, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Et malheureusement, là, la marée, elle est là.
Ah bah
et
là,
ça va être très, très compliqué. Tu peux mettre tous les textes législatifs, réglementaires que tu veux. Franchement, ces outils vont arriver en mode sur le marché noir. Enfin, tout le monde pourra s'en servir, en
mais
réalité.
Soyons,
c'est une évidence.
Soyons enthousiastes, c'est hyper beau aussi. Enfin, ouais, on a des prouesses actuellement qui sont dingues. On est sur un truc qui est vraiment fou. Mais je trouve que ça avance. En fait, comment dire ? L'innovation dingue, waouh, avance plus vite que la réflexion autour pour protéger et les gens et les usages.
Ouais, mais je trouve aussi c'est très sain que ça soit maintenant révélé au grand public, parce que pendant très longtemps, c'était peut-être dans un laboratoire, il y avait peut-être des dérives qui étaient déjà sous le tapis, et maintenant on sait que ça existe, on peut du coup éduquer les gens à les reconnaître, on peut éduquer les gens à s'en prémunir, alors qu'avant c'était un petit peu plus discret et qu'on aurait pu avoir des grandes campagnes de manipulation sans s'en rendre compte.
Mais c'est pas ce que tu dis par rapport à Microsoft qui là le présente et dit, on ne vous le donne pas parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Mmh. Et il faut vraiment que les mecs arrivent aujourd'hui à penser au mauvais usage de, leur, de leurs innovations. Bah, c'est une autre gymnastique, mine
même
de
même chose pour Sora, d'ailleurs, d'OpenAI.
Voilà, ouais, exactement. Ils n'ont pas lancé tout de suite. Et parce que aussi, il y aura des outils, des contre-outils qui vont être créés, justement, pour pouvoir détecter ce genre d'abus.
Bon, on aura. Moi, j'ai hâte de tester, en tout cas, ça, c'est sûr. Vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir
on
tester.
On va faire des vidéos de toi.
Mais oui, bien sûr. Ouais, ça aurait été marrant. On aurait fait des fakes de tout le monde si on avait
mais
pu
arrête,
y avoir accès.
Mais arrête, il n'y aura plus besoin de nous après, si ça marche
ouais,
trop bien.
Ça va être compliqué, hein, franchement. Mais oui, tout le monde va être potentiellement remplaçable. Nul n'est irremplaçable, malheureusement. Bon, on continuera d'en parler quand l'outil sera disponible. On va parler de TikTok, si vous voulez bien, les amis, parce qu'il y a un gros sujet quand même autour de TikTok. Alors, c'est vrai que ça traînait depuis longtemps, hein, cette histoire de est-ce qu'on va interdire TikTok ? Il y avait une menace, une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur eux depuis longtemps, notamment aux États-Unis. Mais là, ça se précise quand même. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée, hein, le Sénat l'a adoptée, Joe Biden l'a signée également, qui vise à... En gros, a donné un ultimatum à TikTok. Hein. C'est, en gros, ils ont 12 mois. Soit ils se vendent à des Américains, comme ça les Américains auront le contrôle de ce que fait TikTok et des données qui sont récupérées, etc. Soit l'application sera bannie purement et simplement des App Store, Google et Apple.
Ouais, c'est un dossier qui traîne depuis très très longtemps. TikTok, ils sont en bataille depuis je sais pas combien d'années au final. Ils sont accusés d'être en cheville avec le gouvernement chinois et donc potentiellement, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune preuve, voilà, de transmettre les données des utilisateurs, 170 millions d'Américains, mine de rien, au gouvernement chinois. Et donc là, évidemment, aux États-Unis, ça les inquiète. Ils demandent à ce que les liens soient coupés avec le gouvernement. Biden, la maison mère, dit « Mais attendez, on n'a pas de liens, les gars. Donc, on ne peut pas les couper, on ne les a pas. » Sur ce, les Américains ne lâchent rien. Microsoft était un temps pressenti parce que l'administration américaine voulait, comme tu l'as dit, qu'il y ait une entreprise qui récupère la branche. C'est pas tout TikTok, c'est la branche US,
oui, la branche US
de TikTok.
Il faut rappeler que TikTok
pour protéger
en Chine,
les données.
C'est même pas TikTok, c'est
oui.
Douyin.
Voilà. Pour protéger les données des Américains. Mais évidemment, TikTok, ils disent, on comprend pas, on n'y est pour rien, pourquoi vous voulez qu'on se cède ? Donc ils ont maintenant... Le texte, en fait, est plus large que ça. Il n'y aura peut-être pas que TikTok dans le bazar. Parce que le texte, en fait, dit que n'importe quelle application qui met en péril la sécurité nationale...
Ouais, enfin, c'est une manière de viser TikTok en disant, non, mais c'est pas que TikTok.
Il y a TikTok, il y a AliExpress...
Oui, enfin c'est les Chinois.
En gros, oui.
S'il y avait un Russe qui sortait, il serait probablement
dans le
on va pas se mentir.
Le filet est assez grand.
Mais c'est vrai que le côté de dire, vous cédez votre branche, vous disparaissez, le choix, je ne sais pas comment ils vont gérer leur choix, parce que là, c'est un peu...
Je pense que ça va surtout durer pendant encore quelques années, parce que entre le lobbying, des enfants, des sénateurs qu'on a pu voir en action, qui sont eux-mêmes tiktokers, le lobbying des avocats, parce qu'ils vont traîner tout le monde devant les tribunaux, et ça peut être une entreprise chinoise, ils ont bien compris comment les Américains fonctionnaient, ça va être procès sur procès pendant des années.
TikTok a déjà annoncé qu'il portait l'affaire en justice.
La question centrale, ça va être, est-ce que même s'ils arrivent à acquérir la société TikTok, est-ce qu'il va y avoir un transfert de technologie, parce que finalement, les algorithmes, ils ont été conçus en Chine. les mises à jour, elles sont faites en Chine. Ça doit être une entreprise qui n'a pas de lien direct avec la Chine. Les ingénieurs à l'origine et l'algorithme
avec le
aussi magique qu'il soit. Avec le PCC, le Parti communiste chinois. Voilà, quand même, toute l'ingénierie et toute l'innovation restera en Chine.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la réponse à la question fondamentale.
Jamais.
Est-ce qu'il y a espionnage ou pas ? Parce que TikTok soit un aspirateur à données, ça, je crois qu'il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Tous les experts en sécurité qui se sont penchés, qui ont un peu décortiqué l'application, disent en gros, ils siphonnent absolument tout. Est-ce que c'est plus ou moins que les autres réseaux sociaux ? Probablement plutôt plus que moi, mais enfin, les autres ne sont pas exemplaires non plus.
Bah non, et puis le plus grand exemple derrière, c'est Meta. Donc
ouais, qui a fait beaucoup de travail de sape pour essayer de déstabiliser TikTok auprès des autorités américaines.
Bah,
ils ont beaucoup de lobbying.
Ils ont la même clientèle pub, donc c'est
ça,
sûr.
Bah, évidemment. Non, mais après, la question, au-delà du fait qu'ils siphonnent les données, c'est est-ce qu'effectivement, ils les transfèrent ensuite vers Pékin ? Et de ce point de vue-là, on dit il n'y a pas de preuves, mais ils ont un discours qui est quand même très, très ambigu et ambivalent, TikTok. C'est-à-dire qu'un coup, ils disent non, on n'a absolument aucun lien, mais je me souviens qu'ils avaient dit, c'était en Europe, enfin, j'imagine qu'aux États-Unis c'est la même chose, que oui, des employés chinois pouvaient avoir accès aux données si nécessité oblige.
C'est la même chose en Europe, effectivement, mais en fait ils nous disent à chaque fois, oui, mais c'est pas, s'il y a un souci technique, et ben, du coup ils peuvent accéder aux données afin de savoir comment régler le problème. Mais du coup ça veut dire qu'il y a quand même une relation, une connexion à minima avec des serveurs.
Chacun joue la carte de sa sécurité. Les Américains jouent la sécurité nationale, donc TikTok est en danger. Et TikTok t'explique qu'ils peuvent aller regarder parce que si jamais ils sont en danger, eux aussi. Tant qu'il y aura ça, pour moi, ça va prendre des années. Ils vont finir par... je sais pas, ils peuvent pas bannir. Ils peuvent pas bannir.
Non, c'est impossible.
Je le vois pas,
non.
Ça paraît énorme.
Bah surtout que ce qui
est intéressant. Il y a des États qui ont essayé. Tu sais, ils ont essayé en local de faire TikTok.
Il y a des pays, je crois que c'est pas au Brésil qu'ils ont interdit TikTok, ou alors je dis une bêtise.
Je sais plus, mais en effet, il y a des pays.
Il y a des pays en Asie.
Il y a en Asie, en Amérique du Sud aussi.
Il y a des pays qui l'ont interdit, c'est sûr.
Et puis,
il y a pas mal de pays qui ont interdit, en revanche, à tous leurs services publics, à l'administration,
et plus
en Europe,
en Union européenne.
Et le truc, c'est que. En fait, il y a eu des États qui ont essayé de faire interdire directement TikTok. TikTok avait réagi en créant ce qu'ils appelaient, je ne sais plus, le projet Texas ou fonction Texas ou je ne sais pas quoi, qui était de créer comme une espèce de bulle autour des États-Unis, en jurant sur la tête de tout le monde que les données américaines ne quitteraient pas le sol américain.
Avec Oracle, non, ils n'avaient pas fait un truc avec Oracle.
Je ne sais plus avec qui c'était, mais tu te souviens de cette histoire ?
Ouais, en train de le monter, non ? C'est l'espèce de serveur qui était basé aux US.
Je crois que ça s'appelle Projet Texas ou je ne sais plus, un truc comme ça. Et en gros, c'est de dire, ok, les données des Américains sont sur un serveur à part. Alors, est-ce que c'est plus safe ? Je ne suis pas certaine. Mais là, vous êtes sûr, c'est isolé, personne ne pourrait y toucher à part vous. Ce qui aussi, entre parenthèses, facilitera la vente. Si jamais il doit y avoir, ça doit être cédé. En gros, ils servent un data center, quoi. Donc,
ouais, c'est ça. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que TikTok, pour lutter contre cette loi, alors effectivement, ils ont porté plainte, mais ils font aussi appel à leurs utilisateurs, en disant à leurs utilisateurs, contactez vos représentants, vos sénateurs, etc. Pour faire pression, vous êtes 170 millions d'Américains à utiliser notre service. On veut vous priver de TikTok. Il y a 7 millions d'entreprises qui vivent grâce à TikTok. Vraiment, faites pression.
Il faut aussi rappeler le contexte. Il y a des élections aux États-Unis cette année. Ces gens-là, ils votent. Ils ont l'âge, la plupart du temps, ils ont grandi avec TikTok. Ils ont pris l'habitude de l'utiliser depuis le Covid notamment. Ouais. Ces gens arrivent à maturité pour pouvoir voter. Ça reste un énorme potentiel pour déstabiliser une élection.
Facebook le sait.
Et puis, alors, quand même, juste pour parler, parce qu'on a parlé des États-Unis, mais pression sur TikTok aussi en Europe avec TikTok Lite.
TikTok Lite.
TikTok Lite. Donc, qui peut me réexpliquer ce que c'est TikTok Lite ?
TikTok Lite, c'était en gros une nouvelle version de l'application où on pouvait gagner des pièces qui n'étaient pas encore de l'argent concret, mais qui pouvaient ensuite être évidemment converties. En consommant des vidéos. Donc là, on était dans l'étape suivante de TikTok où on consommait de la vidéo, de l'incitation, encore plus. Bon, des gens qui avaient déjà pris l'habitude de regarder des vidéos de manière quasiment automatique, ça faisait une petite rentrée d'argent virtuel pour l'instant. Le problème, c'est que ça accentuait le phénomène d'addiction contre lequel TikTok est censé lutter, contre lequel TikTok s'est engagé à lutter surtout, et en même temps, ils mettent en parallèle cette application. Donc c'était un peu contradictoire.
Là où c'était vraiment se foutre du monde, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'on sait que pour n'importe quelle application, ça c'est valable pour toutes les applications du monde, de Netflix à Facebook, le problème c'est la rétention des utilisateurs. Comment faire en sorte qu'ils ne quittent pas la plateforme ? Netflix a trouvé l'idée d'ajouter des jeux vidéo par exemple pour qu'ils restent. TikTok, ils savent très bien que les gens ont une espèce d'utilisation un peu, compulsive de TikTok. Ils peuvent rester et regarder, enfin, croire qu'ils regardent 50 vidéos, repartir,
pendant des heures,
revenir, mais finalement ils vont faire autre chose, ils font TikTok en plus. TikTok Lite, c'était comment leur dire de rester contre du pognon. Enfin, en fait, c'est acheter ses utilisateurs.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même, on est quand même et sur des jeunes utilisateurs, parce que c'est ça le truc. C'est pas des adultes en fait forcément. Là, on se dit, il y a quand même un truc dans la mécanique. Et pour moi, c'est là où les Américains, plutôt que de jouer la carte de la sécurité nationale, ils ont un biais qui est plus important et plus intéressant juridiquement. C'est le danger entre la fraude, l'addiction, les choses comme ça. Il y a des reproches à faire pour moi à TikTok, bien plus que savoir si nos données publicitaires ou non, elles finissent en Chine. Mmh. C'est vraiment sur le
très
côté
concret.
Utilisation concrète, quoi.
On va s'arrêter là sur TikTok. On va parler d'une entreprise qui ne risque pas d'être interdite aux États-Unis, c'est Apple. Ou alors je serais très, très étonné. Et du Vision Pro. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Vision Pro. Mais il y a un vrai sujet autour du Vision Pro, puisque Ming-Chi Kuo, donc, qui est un analyste bien connu, qui sont très, très bien renseignés hein, sur tout ce qui se passe chez Apple, eh bien, nous dit qu'Apple aurait divisé par deux ses objectifs de vente pour 2024, aurait revu ses objectifs à la baisse et donc sa production à la baisse, 400 000 contre 800 000 initialement prévu. Qu'est-ce qui se passe? Personne veut du Vision Pro? C'était prévisible?
Alors, moi j'ai envie de dire oui. Je trouve que le premier chiffre, s'il est... Alors, il faut quand même savoir un truc juste. Les chiffres qu'on prête à Apple, honnêtement, c'est vraiment au doigt mouillé parce qu'ils ne disent jamais rien.
Non, mais, donc, mais surtout, au début, ils avaient augmenté leurs prévisions. Donc peut-être qu'ils reviennent à une forme de réalité et que lui, il a des informations qui sont issues des usines en Chine. Donc ça correspond peut-être plus à la réalité du terrain.
Pour moi, je pense... 800 000, c'était quand même déjà énorme. N'oublions pas que c'est un produit qui vaut plus de 4 000 euros, qui n'est disponible qu'aux États-Unis, qui va être ouvert là au reste du monde sous peu. Mais enfin, ils en avaient déjà vendu 200 000, même s'il y en a qui sont revenus au début sur le produit. Je me demande, moi, si ça ne veut pas dire que la V2 va arriver beaucoup plus vite.
Ah, tu crois que c'est ça?
Ça peut accélérer les choses,
un autre
c'est
truc. Parce que ça veut dire que tu diminues la production de celui-ci.
Pour faire de la place.
Pour faire de la place.
Ça veut surtout dire que personne ne veut l'acheter.
Mais
quoi.
On en reviendra même. Il est pour qui ce produit?
Mais oui, mais c'est tout le problème. C'est qu'il y a très peu de gens déjà qui sont prêts à l'acheter en mode early adopter, mais il y a aussi.
800 000, c'est énorme.
Il y a pas de killer app. Tu l'achètes pour quoi aujourd'hui le Vision Pro?
Ah non, mais pour moi, il faut attendre le mois de juin.
Voilà.
Moi, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai testé, honnêtement, je suis d'accord avec toi. C'est un produit pour les professionnels qui sont en train de développer des applications pour le Vision Pro.
Il y a que notre ami VI Collection qui l'utilise tous les jours. Il nous l'a dit même au bout de deux mois, il est tous les jours dessus et il fait ses montages dessus.
Il l'avait dit, mais parce qu'en fait...
JB, on le salue.
Ouais, JB, il a un avantage. Il est en travailleur solitaire. Je veux dire, c'est pas un reproche, ça veut dire qu'il peut travailler avec son casque. Est-ce que nous, en rédaction, on va mettre ce casque-là?
Malheureusement,
non. Est-ce qu'on a envie que nos collègues l'aient sur la tête?
Non.
Donc
plus,
déjà,
non.
Ça limite un usage vraiment au quotidien. Je pense que c'est très pratique. En plus, JB, il est en vadrouille, il peut travailler comme ça de partout. Il y a à qui c'est destiné et pourquoi faire. Le pourquoi faire, en ce moment, pour moi, il est trop limitatif. J'attends beaucoup de la conférence du mois de juin, justement là-dessus, pour voir les avancées. Il a été annoncé l'année dernière au mois de juin à des développeurs pour qu'ils en fassent quelque chose. Ils ont eu un an. Est-ce qu'au bout d'un an, il y aura des vrais usages?
Oui.
Là, je tirerai une conclusion des chiffres.
Voilà, les chiffres qui vont être sur les applications qui ont été créées depuis le lancement, je pense que ça va être beaucoup plus parlant que les chiffres de vente, parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt des développeurs. Les développeurs sont quand même les premiers clients. Est-ce qu'ils les ont conservés? Est-ce que ça a fini dans un placard? Est-ce qu'il est en train de prendre la poussière?
Est-ce qu'il y a une appli aujourd'hui dont vous avez entendu parler et vous avez vu des images? Vous dites, ah ouais, ce truc-là,
non, il n'y a pas la killer app.
Même sur les casques de VR, t'avais Beat Saber par exemple. Ça, c'est incroyable, Beat Saber. Là, sur le Vision Pro, moi, j'ai entendu parler de rien du tout. C'est tu le testes, tu regardes un film, c'est ah ouais, c'est cool, c'est impressionnant. Et ça, on l'a tous testé et c'est vrai que c'est impressionnant, il n'y a pas de souci. Mais. Après, en termes d'usage réel...
Le coup du multi-écran, en effet, quand tu l'as, ça, c'est pratique, c'est vrai. Est-ce que j'ai envie aujourd'hui que ça remplace mon multi-écran de bureau? Non, même si c'est pratique en déplacement, j'en conviens. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas la cible de ce produit-là, comme beaucoup de gens, en fait. Il faut qu'on m'explique ce que je vais pouvoir vraiment faire. Et c'est pour ça que je te dis, ils ont eu un an pour créer des apps. Donc on verra, les chiffres, ils seront sans doute vrais, de Ming-Chi Kuo à la fin. Si vraiment Apple baisse, moi je mets un bémol là-dessus en attendant les usages. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien en fait. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas plus quand ils l'ont lancé du mois de juin de la première présentation pour se faire un avis.
Ah oui, mais
donnez-moi 50 applis de plus, des choses un peu plus révolutionnaires, des vrais gens qui ont travaillé dessus. Et là, je te dirais oui ou non. Mais comme c'était le HoloLens de Microsoft.
Non, mais oui, mais bien. Oui, mais justement, on pouvait lui prédire quand même un démarrage un peu plus canon que le HoloLens de Microsoft. Moi, c'était ça
mais,
aussi.
Mais qui cartonne en entreprise, le HoloLens.
cartonne, faut pas non plus. Non,
mais ce que je veux dire, certaines entreprises.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entreprises qui n'utilisent que de ça. Il est sorti du domaine public. Et pour le moment, pour moi, le Vision Pro n'est pas un produit grand public.
Bon, très bien. On aura l'occasion d'en reparler. On va parler d'ailleurs tout à l'heure. Restez avec nous pour le petit bonus, puisqu'on va sortir les boules de cristal pour essayer de deviner ce qu'Apple va présenter lors de ses deux prochaines keynotes. Il y a celle du 7 mai. Ce sera autour des iPads. Et puis, il y aura évidemment la Worldwide Conference au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on en discutera tout à l'heure avec vous deux. Un petit mot encore sur Apple pour terminer l'émission. Vraiment, on n'a plus beaucoup de temps. Mais parce qu'Apple s'intéresse à la France, Damien, à travers une belle entreprise, une belle prise pour Apple. Ils ont fait une petite acquisition.
Ils ont fait une petite acquisition en décembre d'une start-up qui s'appelle DataCalab, qui s'est fait connaître essentiellement après le Covid. C'était une startup qui était derrière la technique de reconnaissance du port du masque qui avait fait polémique à l'époque parce qu'elle permettait en fait de détecter si les gens portaient le masque dans les transports. Voilà, ça a été ses 5 minutes de gloire. Et depuis, elle était un peu passée sur les radars et là, elle revient dans l'actualité parce qu'elle a été rachetée par Apple pour sa technologie de compression des algorithmes d'IA. Parce que Apple est un peu en retard par rapport à la concurrence en termes de course à l'IA. Et là, ils ont fait une belle acquisition. On ne connaît pas exactement le montant, mais on peut imaginer qu'il y a quand même quelques millions qui ont été transférés. C'est une boîte qui a été créée par deux Français, deux frères, dont un était un ancien d'une autre boîte qui avait été déjà achetée par Apple il y a quelques années. Et cette boîte-là, elle avait été transférée avec toute sa technologie chez Apple et était devenue Face ID.
Et donc, c'est intéressant de voir que Apple multiplie les acquisitions dans le domaine de l'IA, hein, parce que ce n'est pas la première.
Ah non, je crois qu'ils en sont à plus d'une vingtaine d'acquisitions sur les dernières années autour de l'IA. Donc, clairement, de start-up, ils sont vraiment en train de se construire quelque chose. On attend, tu le disais, ce sera, à mon avis, à la WWDC, à la conférence du mois de juin, où on va vraiment voir ce qu'ils sont capables de proposer.
Ils vont ouvrir les vannes et surtout voir comment ils avaient intégré, parce que toutes ces boîtes-là arrivent avec leur technologie, ça fait des briques. Comment tu les intègres dans un produit, dans un logiciel?
Comment tu uniformises tout ça, quoi.
On va voir un peu comment, toutes les annonces. On va en reparler brièvement lors du bonus tout à l'heure. Restez avec nous. Merci beaucoup, les amis. Merci à tous les deux d'avoir décrypté avec moi l'actualité tech de cette semaine. Restez avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie de Quoi je me mêle dans un instant. On va parler de caméras de vidéosurveillance avec Lionel Paris. C'est tout de suite. Bougez pas.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel.
De quoi je me mêle, la suite, deuxième partie. Alors on va parler d'un marché que je dois dire je ne connais pas énormément. On va le défricher ensemble avec Lionel Paris, notre consultant tech. Salut Lionel.
Bonjour Anthony.
On est ravis d'être avec toi. Tu réalises souvent une veille technologique assez pointue hein, sur des sujets spécifiques, sur des produits spécifiques. Et aujourd'hui, on va parler des caméras et des systèmes de surveillance pour la maison. C'est vrai, on est dans la domotique. On n'en parle pas très souvent dans De quoi je me mêle. C'est un marché qui est hyper intéressant et j'allais dire qui est de saison parce que les gens qui préparent peut-être les grandes vacances qui vont s'approcher, c'est peut-être le moment de s'équiper aussi. Hein.
Et cette année, les grands ponts du mois de mai aussi
absolument. Et c'est un marché qui est très intéressant parce qu'il est en ébullition. Il y a une explosion de l'équipement en caméras de vidéosurveillance avec l'explosion aussi de l'insécurité. Ça va avec, évidemment. Et c'est un marché qui est intéressant parce que, comme souvent, hein, tu as des acteurs historiques.
C'est ça.
Et puis, tu as des challengers qui viennent les titiller. Alors, tu nous as apporté là deux systèmes différents. Tu peux nous les décrire rapidement?
Alors, écoute, oui, je t'ai ramené en fait les deux derniers lancements. Hein. Donc, on a d'un côté le renouvellement de l'offre SFR, hein, qui est un acteur historique comme les autres opérateurs aujourd'hui qui ont des offres de télésurveillance et qui vient de rafraîchir sa gamme. C'était il y a 3 semaines. Et puis, il y a un nouvel acteur dont on a déjà entendu parler, mais qui n'est peut-être pas encore assez connu, je trouve, du grand public, qui est une marque qui s'appelle Chiara et qui vient aussi de faire un refresh de son offre et qui a fait une annonce assez intéressante dans les locaux de Free. Et donc, il y a aussi à peu près une quinzaine de jours.
Pourquoi dans les locaux de Free?
Alors, ça, c'est ça qui est intéressant dans ce lancement, c'est que les gens qui sont au pilote de Chiara, donc cette start-up française, sont en fait une ancienne équipe de Free, et donc qui a décidé, il y a maintenant 4 ans, de lancer cette gamme de produits, de se mettre autonome, de créer leur propre marque. Et bien évidemment, notre Xavier Niel les a suivis dans cette démarche, et il y a un an, et je pense, il me semble que ça a fait pas mal de presse à ce moment-là. Il a investi dans cette société assez lourdement. Je crois que c'était 14 millions d'euros de mémoire pour leur permettre de se développer, de se lancer dans ce nouveau marché.
Alors ces nouveaux entrants, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Quels features ils proposent que ne proposent pas forcément les acteurs historiques? J'imagine qu'il y a de l'innovation et qu'il y a un jeu de chat et de la souris entre les anciens et les modernes, quoi.
C'est ça, bien sûr. Tu l'as deviné. En fait, tu as d'un côté sur ce marché-là, tu as les acteurs historiques. On en a parlé tout à l'heure, donc tu as les deux grosses marques de télésurveillance, tu as Verisure d'un côté, tu as Omeris, ou les gens qui connaissent bien sous le nom d'EPS aussi, qui sont les acteurs, on va dire, historiques, et Chiara a un petit peu envie de donner un petit coup de pied dans la fourmilière, un petit peu de la même manière que l'a fait Free, si tu veux, il y a quelques années, dans le monde des télécoms. C'est un petit peu la même approche. Et donc, pour faire ça, ils ont vraiment créé des produits qui sont, on va en parler, assez innovants, disruptifs, sur plein, il coche, si tu veux, les petits points noirs qu'on avait sur ces systèmes de vidéosurveillance. Ouais. Parce que pour te refaire un panel de marché, si tu veux, grosso modo, aujourd'hui, en tant que particulier, tu as le choix. Ou tu vas sur les deux opérateurs historiques que je viens de citer, ou alors tu te retrouves sur des installations que tu fais toi-même. Ouais. Et là, tu as une pléthore de produits. Je vais te citer Nest de chez Google, qui a été racheté en 2014. Je rappelle qu'à l'époque, ce n'était que des thermostats. Il n'y avait pas encore de caméra. Ou ouais. Je te cite Amazon, qui a racheté ouais. Ring ouais. En 2016.
J'avais Arlo en tête aussi. Enfin, il y a plein de petits acteurs.
Blink, en 2017, qui a été aussi racheté par Amazon. Tu as Legrand, qui a aussi racheté Netatmo en 2018. Et puis, tu as pléthore de marques asiatiques. Et pour te reprendre sur Arlo, en fait, Arlo a été vendu à Verisure.
Ah oui, bah tu vois, je savais
et
même
ça
pas.
Fait, et ça fait 3-4 ans maintenant que Verisure installe en fait, des produits Arlo dans leurs offres et dans leurs packages. Mais si tu veux, dans ce marché, tu avais un trou. Tu avais d'un côté les acteurs historiques, de l'autre côté les caméras où tu installes un peu tout seul ton système, mais tu n'as pas de service.
Ah, c'est ça.
C'est toi, en fait, qui t'auto-installe tes produits et grâce à vos applications, te permet de te surveiller ta maison.
Et donc là, alors, les nouveaux entrants... Et
donc là, les nouveaux entrants, ils ont à la fois une solution technologiquement bien éprouvée et avec pas mal de différenciateurs, mais surtout... Il y a une partie de service qui est intégrée et qui fait partie. C'est un package, en fait. Là, l'idée, ce n'est pas de prendre une caméra. L'idée, c'est d'acheter un système. Et on va voir que les deux offres ont leur philosophie particulière. Hein, ce n'est pas les mêmes. Mais du coup, tu prends quelque chose de packagé et qui a donc des services jusqu'à l'intervention de quelqu'un chez toi.
Alors, vas-y, dis-nous un peu le package, c'est quoi ? Tu as la caméra, ça, c'est la base ?
Bien sûr, c'est la base. Donc, si je démarre par Chiara aujourd'hui, donc tu as la caméra. Donc là, la première innovation dans tous les systèmes, historiquement, tu as une centrale. C'est ton lien avec ta connexion Internet, c'est ton lien avec ton Wi-Fi, etc. La première innovation de Chiara, c'est qu'aujourd'hui, la centrale, elle est là.
Dans la caméra.
Ils l'ont intégré dans la caméra. Donc, gros avantage pour le particulier, tu as un produit en moins. Grosse flex au niveau de l'installation parce que la caméra est en Wi-Fi et elle fait à la fois office de centrale. Ce qui est très intéressant dans leur système, et ça a été très bien pensé, c'est que si jamais tu as une coupure, parce que c'est toujours la question qu'on va poser, hein, qu'est-ce qui se passe, j'ai plus Internet.
Coupure de courant,
coupure de Wi-Fi. Eh bien, ils ont un système très intelligent qui va backuper sur leur sirène. La sirène peut aussi être une centrale de sécurité déportée qui va communiquer en permanence avec l'ensemble des objets, mais aussi la caméra. Dès qu'elle n'entend plus parler de la caméra, c'est elle qui prend le relais.
Ah.
La sirène, elle est sur pile et elle a à l'intérieur un réseau Sigfox.
On ne va pas la lancer là, parce que c'est un peu
alors, piquant, 105 dB, mais... ça fait beaucoup de bruit, c'est comme une vraie alarme de télésurveilleur, ça marche très très bien. Donc système sur pile très intéressant, on a une communication avec la caméra, après on va retrouver des choses un peu plus classiques, qui sont bien sûr des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, de fermeture, mais vraiment l'innovation a été pensée à ce niveau-là, il y a une très belle interaction entre les objets.
Est-ce que dans la caméra, tu as de la reconnaissance faciale ? Il y a certains modèles qui proposent ça maintenant, où en gros, tu peux déterminer des profils types. Donc, ça peut être les gens de la maison, ça peut être la nounou, un voisin qui doit venir récupérer le courrier, peu importe. Alors, et les autres sont considérés comme des intrus.
C'est ça, ils n'en sont pas encore à ce niveau-là. Maintenant, dans la tech qu'ils ont dans les produits, il y a des capacités d'évolution qui sont très claires et il y a une marge de manœuvre. Ils développent tout en local. Il y a une maîtrise complète du hardware, une maîtrise complète du software. C'est fait en France. C'est fabriqué en France.
Ah ouais ?
À Laval.
OK.
Mis à part quelques composants de la caméra, donc c'est assemblé, oui. Mais ce n'est pas complètement fabriqué, mais ça, on peut comprendre pourquoi. Donc, il y a une démarche que je trouve assez intéressante Aussi au niveau de la protection des données.
Alors c'est ça, je voulais aussi te poser la question, parce qu'il y, y a cette question-là qui est hyper importante. Où est-ce qu'elles vont les données? Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est stocké dans le cloud? Dans quel cloud?
La plupart des produits que je t'ai cités en introduction, on est d'accord, tout ça, ça finit dans le cloud des marques respectives que j'ai citées. Et c'est là où souvent le bas blesse, parce que les gens n'ont pas envie, si tu veux, d'avoir leurs données qui se trimballent partout, et notamment chez les GAFA. Là, on est sur un système 100% local. Ça a été pensé, voulu, dans l'architecture qu'ils ont créée. Et ce qui est très, très bien, c'est que c'est uniquement envoyé sur des serveurs à partir du moment où toi, tu utilises l'application, tu veux faire une consultation en temps réel. Là, tu as une ligne qui s'ouvre et qui te permet de voir le flux dans ton application. Cette ligne se ferme et ça repart en local dans la caméra. Bien évidemment, tu peux faire les deux. Ils ont aussi développé, encore une fois, ces maisons. J'ai jamais vu une structure de sécurisation aussi poussée. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais l'intégralité du flux de ces appareils est sécurisée 3 fois. Donc, je pense que c'est assez future-proof. Je pense que c'est un point qui, pour eux, faisait partie de la checklist, si tu veux. Ouais. OK, si j'arrive sur ce marché, je vais être disruptif. Le premier truc que je vais régler, c'est ça. Et effectivement, c'est ça qu'ils ont réglé en premier.
Alors la question de sécurité, c'est, tu as raison, tu as où vont les données, mais tu as aussi la sécurité de la caméra elle-même. Tu as eu beaucoup, tu sais, ces modèles que tu installais toi-même et où tu avais le mot de passe 1111.
Non, ou même des protocoles Wi-Fi qui sont absolument dépassés de sécurité. Enfin, je veux dire,
et caméras qui se faisaient hacker. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de cas où on pouvait en gros voir ce qui se passe chez toi à travers ta propre caméra.
Exactement.
Donc là, j'imagine qu'il y a aussi des mesures qui sont prises sur les modèles que tu proposes.
Ils ont, encore une fois, c'est la beauté de ce système qui a été développé en France par des gens en France et qui, effectivement, ils ont mis des couches de sécurité à ce niveau-là. Quand je te dis qu'il y a 3 couches, sur la caméra, en fait, il y en a 4.
Il y a aussi celle-là.
Parce qu'il y a aussi celle-ci. Ouais. Donc, il y a tout un système de tuning VPN, de communication entre la sirène et la centrale et la caméra avec l'application. Enfin, ils ont vraiment fait quelque chose d'assez intégré que je trouve très intéressant. Technologiquement parlant, je n'ai jamais vu.
Okay.
Enfin, ce niveau de ils ont poussé très, très loin. Et je trouve que c'est une solution qui a de la pertinence aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas encore équipés et qui veulent s'équiper et qui, effectivement, vont favoriser. On va voir, les approches sont différentes. Qui, pour eux, un système d'alarme, c'est, parce que là, c'est un pack de base, il y a beaucoup d'autres options, c'est d'abord une caméra et bien sûr une sirène.
Donc ça, c'était Chiara. Hein.
Ça, c'était Chiara.
Et donc équipe bleue, parce que il nous a fait ça propre, hein, Lionel, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il nous a mis des petites étiquettes bleues sur tout l'équipement. Donc il y a la caméra, la sirène, les petits capteurs de présence.
Voilà, c'est
et
ça.
Et puis on a les étiquettes rouges sur. Alors c'est quoi? C'est SFR pour le
donc
coup,
là,
c'est ça?
Donc là, c'est SFR qui vient donc de renouveler son offre, hein, qui était un acteur historique sur ces systèmes de surveillance. Donc il y avait une ancienne offre qui s'appelait SFR Home, qui est commercialisée depuis quelques années. Et qui vient d'être complètement rafraîchi. Alors, ce qui est toujours intéressant avec un fournisseur d'accès, c'est qu'on va difficilement se trouver dans un cas où on va être rendu à soi-même. C'est-à-dire que dans les marques que j'ai citées, tu le sais très bien, il y a des marques dans ces objets connectés qui ferment du jour au lendemain. Et là, malheureusement, sur un objet connecté, le dernier exemple en date, ça a été les gammes de Gigaset,
ouais,
que tu connais très bien sur les téléphones fixes.
Absolument.
Il y avait toute une gamme, donc c'est Siemens qui est derrière Gigaset, bien sûr, et donc le concurrent de Bosch. Bosch a résisté, pas Siemens. Et donc, il y avait toute une gamme d'objets connectés qui ont disparu, ça a été annoncé en mars. Bon, là, j'ai envie de dire, c'est clap de fin, tous les produits que tu avais.
T'es foutu.
Sans serveur,
ouais.
Il n'y a plus rien qui marche.
C'est ça.
Donc, en tant que toi, consommateur, tu prends, tu jettes, enfin, il y a très peu de choses qui vont marcher. L'intérêt d'un fournisseur d'accès, c'est que vraiment, tu as un suivi. Donc là, je prends le cas d'SFR, c'est que, bien sûr, ils arrêtent la commercialisation de l'offre précédente, mais l'ancienne, bien que l'ancienne et la nouvelle offre ne sont pas compatibles, tu as une continuité de service sur l'ancienne offre. Évidemment, ils vont t'encourager à basculer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, tu ne te retrouves pas pieds et poings liés avec rien du tout à la maison du jour au lendemain. Ça, je trouve ça que c'est intéressant, ouais, parce que c'est la démarche d'un fournisseur d'accès. Et donc, dans leur renouvellement d'offres, ils ont voulu faire 2 choses. Il y a une offre beaucoup plus complète, avec un choix de produits, tu le vois ici, beaucoup plus grand. Et ils ont vraiment une notion de sécurité qui leur est propre, parce qu'on va retrouver une station d'accueil. Ce sont des produits donc, que tu achètes. Le pack là, coûte 121 euros. Et tu vas trouver donc une centrale de sécurité, qui est un peu le cœur de ton système. Et donc, comme ils sont fournisseurs d'accès, cette centrale de sécurité, elle va se connecter par définition en Wi-Fi. Sur tes équipements, tu n'es pas obligé d'être client chez SFR. Chiara, tu n'es pas obligé d'être client chez Free,
ouais,
encore une fois.
Ça reste agnostique.
Voilà, c'est à partir du moment où tu es client de l'un ou l'autre des opérateurs, tu as des tarifs préférentiels.
Ouais. Oui, après, bien sûr, ils font des paquets.
Mais il n'y a pas d'obligation. Et donc, la bonne nouvelle de cette station d'accueil, l'évolution, la grosse évolution, c'est qu'elle se connecte en Wi-Fi sur la plupart des équipements et sur des bandes inférieures pour le reste. Mais bien sûr, ils ont intégré une connexion 4G dans la base et une batterie. Encore une fois, on a cette notion de sécurité qui revient, c'est-à-dire on sait faire du Wi-Fi, ça marche plus, je fais de la 4G, il n'y a plus de jus, je fonctionne sur batterie.
Donc là, on voit, il y a deux types de produits, deux philosophies qui sont différentes.
Voilà.
Si on élargit un petit peu le spectre, parce qu'il n'y a pas que ces produits-là, évidemment, sur le marché, mais ça donne un bon aperçu. Si je suis intéressé par ce genre de produits, c'est quoi les critères à regarder en premier? Est-ce que c'est la qualité de la caméra? Est-ce que c'est la connexion? Où sont stockées les données? Le prix, tout simplement? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier?
Je dirais, en stockage de données, ça va dépendre. Là, j'ai liberté tout à chacun de te dire, il y a des gens qui laissent et qui se disent, de toute façon, mes données sont prises d'une manière ou d'une autre. Chez Chiara, vous êtes sûr, certain, que là, les données ne sortent pas ou ne sortent que lorsqu'il y a besoin et que ça a été très sécurisé. Là, typiquement, la caméra, elle se base sur le cloud. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de stockage local. C'est une philosophie qui est différente.
Ouais.
Bon, tout s'installe à travers des applications, c'est extrêmement simple. Les objets sont tous connectés à une centrale qui elle-même est backupée et sécurisée. Après, si tu prends un peu de hauteur vis-à-vis de ça, tu vas trouver sur deux philosophies. C'est-à-dire que SFR, on est vraiment dans le cadre de la vidéosurveillance. Pourquoi ? Tout simplement, le pack de base ne contient pas de sirène.
Ouais, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas la même logique. Par contre, ils ont mis dans le pack de base des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture-fermeture. Tu as un clavier physique en option avec des bips. Ça va te permettre un peu d'ajuster et de paramétrer ton système en fonction de tes propres besoins.
Ouais.
Maintenant, tu as des abonnements derrière. Et donc là, ces abonnements qui sont, donc, je rappelle, c'est de la nouveauté de ces formules sans engagement, vont te permettre de jouer avec ces paramètres. Chez SFR, typiquement, si tu prends un abonnement qui coûte 15 euros par mois, tu as la fonction 4G backup qui fonctionne, tu as la caméra et les enregistrements qui sont dans le cloud, tu as les alertes via l'application, tu as Europe Assistance qui est un partenaire historique des offres de maisons sécurité avec un support, et donc là, toute la partie, si j'ai une intrusion, qu'est-ce qui se passe? Bon, t'as un agent de sécurité qui vient chez toi. Maintenant, si tu coupes ce côté-là, tu perds toutes ces fonctionnalités connectées.
Ouais, c'est ça. Donc là, c'est 15 euros par mois. Et Chiara, c'est combien pour comparer ?
Chiara, tu as donc trois offres. C'est où tu es en basique et tu as l'accès à l'application, tu actives, tu désactives le système. Tu as quand même le flux live de ta vidéo qui sort. Tu as des notifications et tu as le mode jour-nuit. Maintenant, tu ne peux pas partager l'application avec quelqu'un d'autre dans une maison. Donc ça, c'est embêtant. Là, ça te demande de passer en mode Chiara Plus, qui coûte 9,99€ par mois. Tu as besoin d'enregistrer, de récupérer. Tu as la détection de la caméra avec un petit peu d'IA. Tu as l'historique. Et là, tu as la version Ultra, qui coûte 20€ par mois. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de l'avoir toute l'année. Tu peux l'activer quand tu pars en vacances. Quand tu fais ça, tu as capacité d'avoir
la télé dans les 2 minutes.
Tu as Sotel, qui est une entreprise qui est reconnue dans le monde de la télésurveillance, qui envoie des agents, qui t'amène les forces de l'ordre.
C'est ça.
Donc, la grosse nouveauté de ces produits-là, finalement, c'est que tu as une capacité de maîtriser ton abonnement et d'avoir ce que tu veux au moment où tu le veux.
Et c'est
fini le modèle où tu payes le même prix tous les années, tu vois ce que je veux dire.
Mais c'est vraiment mieux que juste acheter une caméra, installer soi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent, bon, moi, je n'ai pas le budget, je ne vais pas mettre 10, 15, 20 euros par mois en plus pour surveiller la maison.
On arrive sur des prix, sur des packages qui sont quand même assez agressifs. Alors, le pack de Chiara, on n'en a pas parlé, le pack que j'ai ramené ici, il est à 249€, mais on est bien conscient que ce n'est pas la même tech que la partie de SFR. Ce n'est pas les mêmes produits et chacun a son marché, il est assez large. Mais je dirais que c'est tellement plus, c'est le côté service. Et le côté flexibilité. Quand tu achètes une caméra, je suis désolé, mais tu n'as plus de jus chez toi ou tu n'as plus de Wi-Fi, tu fais quoi quand tu es en...
Non, c'est
à
clair.
À moins d'avoir une caméra avec un backup 4G derrière.
Tu as raison. Sur le fait que quand on achète une caméra, on pense avant tout à la caméra, alors qu'en fait, c'est tout un écosystème auquel il faut penser avec le service qui va derrière. Ça,
voilà.
C'est vrai.
C'est là où ces offres, je trouve aujourd'hui, sont beaucoup plus pertinentes parce que c'est un package. Et après, l'abonnement va te permettre d'ajuster... Ouais. En fonction de tes besoins, ce que tu as besoin. Mais aussi, il n'y a pas de diction sur un pack particulier. Chacun, tu es capable de refaire le package, de mettre le nombre de détecteurs, le nombre de caméras en fonction de ce que tu as besoin et de sécuriser ton domicile. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et le côté sans engagement.
Oui, aussi, parce que pour le coup, maintenant, plus personne veut de l'engagement, de toute façon. Tu peux avoir un abonnement vidéo caméra de vidéosurveillance, comme tu as ton abonnement Netflix. Encore une fois,
c'est là où les opérateurs historiques, aujourd'hui, sont un petit peu sur des modèles assez old school, je trouve.
Ouais, à l'ancienne.
Et ça mérite d'être un peu défriché. Et ces offres, pour moi, sont assez pertinentes et méritent qu'on jette un coup d'œil pour sécuriser son domicile.
Bon, bah voilà, je pense qu'on a toutes les clés pour se décider. Ah, j'ai vu un truc de fou, moi, en parlant de caméra de vidéosurveillance, là, un projet sur Kickstarter en financement sur les plateformes là. C'est une caméra de vidéosurveillance avec de la reconnaissance faciale et un jet de paintball intégré. C'est-à-dire que en gros la caméra de vidéosurveillance, si elle détecte un intrus, quelqu'un qui n'est pas enregistré dans la maison, elle commence à le bombarder avec des billes de paintball plus gaz lacrymo la totale. Je suis même pas sûr que ce soit légal en France pour être tout à fait honnête, mais en tout cas il la commercialise, en précommande en tout cas. Si ça vous intéresse, allez voir, ça s'appelle c'est Paintcam Eve.
Ouais. C'est sûr,
l'idée est géniale.
C'est un marché qui va encore, qui a de la perspective d'évolution. Il y a de la tech à rajouter dans les quelques années. Il y a de quoi faire sur ce marché, c'est évident.
Clairement. Merci beaucoup, Lionel.
Merci,
Paris, pour ce petit benchmark. On se retrouve très, très vite dans De quoi je me mêle. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Allez, c'est parti pour ce petit bonus audio. Hein. Ben oui, pour tous ceux qui nous écoutent, on leur fait ce petit cadeau, ce petit bonbon supplémentaire avec toujours nos deux décrypteurs de l'actu tech, Damien Licata, Melinda Davansoulas. Et on va parler d'Apple. Vous êtes deux fins connaisseurs d'Apple, il faut être honnête. Hein. Vous les suivez depuis longtemps, vous allez souvent à Cupertino. Non, mais c'est vrai, vous êtes souvent de faites partie de la fête. Hein, quand
La fête.
Je sais pas.
On emmène notre bonne humeur là-bas.
Non, mais c'est des trucs, ça fait aussi rêver les gens, quoi, de se dire qu'on peut...
Qu'on a déjà mis les pieds à l'Apple Park.
Oui, wow, mais du coup, on peut être aussi très critique parce qu'on s'attend beaucoup, en fait, on s'attend à un certain niveau et parfois, on est déçu et du coup, on est obligé de s'exprimer sur ça.
Eh ben alors justement, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que la prochaine keynote va être une déception ou pas du tout? Ça aura lieu le 7 mai. Annonce surprise d'Apple, enfin, on ne l'attendait pas forcément. Annonce sur des nouveaux iPads, a priori. On va sortir les boules de cristal.
On n'en sait rien.
Il y a quand même quelques petits indices, hein, si j'en crois, ne serait-ce que le logo en général, il donne 2-3 petits indices.
Il y a plusieurs indices. Il y a la période déjà qui fait que chez Apple, même si ça a été un peu le bazar depuis le Covid, c'est quand même assez timé dans l'année, les événements. Ouais. On sait que le printemps, alors qui est en général plus le mois de mars, est dédié aux produits, on dira, d'entrée de gamme chez Apple, donc ça fait toujours rire.
Les trucs à mais pas cher.
Voilà, pas cher. C'était en général, historiquement, la période où, quand ils organisaient un événement, il y avait présentation de l'iPhone SE, des iPads numérotés, éventuellement iPad Air, du temps où l'iPad Air était un iPad plus et pas un iPad Pro. Aujourd'hui, il est tellement entre les deux, voire iPad Pro, que c'est vrai qu'il le balade sur l'année. C'est la période de l'éducation. C'est là où ils font leur remise éducation, ils proposent en général les nouvelles sessions. C'est très orienté, famille, petit budget. Petit budget Apple.
Petit budget Apple. On met des gros guillemets.
Je mets des gros guillemets, mais vous me comprenez. Bon,
et on va pas se mentir, Damien, c'est pas la keynote la plus excitante de l'année.
Non, mais il faut être un peu positif. Ils nous gratifient quand même d'une keynote, alors qu'ils auraient pu annoncer ça juste par un communiqué, ce qu'ils ont fait pendant quelques temps. Donc là, peut-être qu'il y aura un petit bonus, peut-être one more thing, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y aura certainement de l'iPad. Je pense qu'on
pour
peut
moi, alors,
pas
l'iPad,
se tromper.
Sûr, oui,
du pencil, ok. Peut-être un peu des annonces pour mettre en appétit par rapport à la conférence des développeurs de juin.
Alors, ce sera clairement un truc enregistré. Je pense qu'il n'y aura pas de... Ce sera comme Halloween, le fameux événement Halloween du mois d'octobre, où ils avaient fait, vous vous souvenez, cette keynote avec Tim Cook qui est devant l'Apple Park de nuit. C'était n'importe quoi, c'était drôle. Ils ont pris ils ont pris goût à ces conférences vidéo qu'ils maîtrisent, franchement, honnêtement, à la perfection.
Ouais,
il faut avouer ce qui est. C'est très, très pro, c'est très léché. Je pense qu'on va voir la même chose avec une petite tournure un peu plus légère. L'invitation, alors moi j'adore, c'est ma passion depuis des années, de déchiffrer, de faire la Madame Irma de l'invitation.
Alors, vas-y.
Alors, c'est pour ça où je pense que c'est iPad, en effet, c'est coloré. Déjà, il y a de la couleur. La couleur, ça veut dire deux choses, mais là, elle est un petit peu trop enfantine, je dirais. La couleur, c'est souvent l'écran. C'est souvent une réflexion autour de l'écran. Alors, tout le monde parle d'un iPad Pro OLED. Ce serait presque pas l'endroit pour.
J'ai l'impression que c'est une voyante qui parle.
C'est clair.
Je vois de la couleur.
Je vois la couleur.
Tirer les cartes.
La couleur, non, mais en fait, les seuls produits couleur chez Apple, ce sont, alors, bon, les iPhone SE, mais ça, j'y crois pas du tout, les iPads numérotés, l'iPad Air éventuellement et l'iPad Mini. On sait qu'on attend une nouvelle version de l'iPad Mini. L'iPad Mini, typiquement sa place, quand ils étaient revenus, ils avaient relancé l'iPad Mini, c'était pareil, c'était sur une période un peu comme ça. Le Pencil, comme tu le disais, Damien, c'est des mecs qui mettent 3 semaines à faire cette invitation, hein, sachez-le. Le Pencil ressemble au premier, au Pencil 1, pas celui de l'iPad Pro, celui des iPads et iPad Mini. Je ne les vois pas avoir dessiné un iPad comme ça en disant « Ah mais non, c'était l'iPad 2, excusez-nous, on s'est trompé. » C'est pas le genre de la maison. D'où mon orientation plus iPad numéroté, iPad Mini, okay. Plus éventuellement iPad Air. Le imaginer, c'est vraiment les mots comme ça. Alors, c'est get loose ou je sais
c'est
pas quoi.
Ouais, get loose, ouais, c'est ça.
En anglais.
Let loose. Mmh. Non, c'est hein? pas let loose.
Let loose ouais. ou ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est vraiment c'est du lâcher, langage en fait. Enfantin. Ouais. C'est vraiment ce côté imaginer, c'est vraiment le truc des scolaires. En fait. Ouais. C'est l'appel à l'imagination, au dessin, à des choses comme ça. Je pense qu'éventuellement, on aura peut-être un Apple Pencil plus évolué. Alors. Mais je pense, moi, j'oriente vraiment. L'iPad Pro, s'il est murmuré, ce sera peut-être le One More Thing. C'est pour dire qu'il y a une puce M3 dedans. Honnêtement, oui, je ne okay. les vois pas faire c'est juste ça, un hein. truc en disant... et je pense que s'il y a un vrai iPad OLED, ce sera avec les MacBook à la fin de l'année, au mois d'octobre.
Bon, la vraie présentation qu'on attend, c'est quand même celle du mois de juin,
oui.
les amis.
Ah, oui. C'est autre chose. Oh, oui, le mois de juin, c'est autre chose.
Non, c'est autre chose, c'est vrai. Mais là, pour le coup, il y a une vraie attente parce que ça va être... Voilà, ça va être coup de départ pour l'intelligence artificielle.
Il y aura
côté
make it or break it parce qu'ils sont obligés, finalement, de se mettre au niveau. À un moment, ils sont obligés aussi de vendre du rêve à la fois aux développeurs, à leurs clients... à un moment, Apple, il faut qu'ils frappent très, très fort.
Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai moins d'attentes au niveau de l'IA. Alors, quand on dit IA chez Apple, c'est l'IA générative, parce que l'IA, il y en a quand même depuis des lustres.
Oui, il y en a
toujours eu. Chez eux, il y en a toujours eu. Ils ont été les premiers à faire en sorte que votre iPhone, il vous comprenne et il vous propose des choses qui vous ressemblent. Donc, l'IA, ça existe là-bas depuis longtemps.
Mais je pense qu'on a peut-être s'orienter vers... tu parlais notamment des commandes vocales, mais peut-être une nouvelle version de Siri, voilà, augmentée.
En fait, c'est ça,
peut-être,
moi, je pense.
Ça va être plutôt sur ça, je pense.
Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des trucs waouh, à non, nous faire de la génération
surtout,
d'images.
Crois, mais moi, j'espère qu'il y aura un truc waouh.
Mais je n'ai pas envie, moi, de ça, en fait. En tant qu'utilisatrice...
Une transition souple.
Non, je veux des trucs qui soient utiles. Et chez Apple, ils ne te lanceront ça que quand ça aura un sens.
Ça sera parfait,
les nouveautés chez Apple, il faut que c'est un sens. Et si... Créer de l'image, ça a un sens. En effet, ce sera annoncé à WWDC pour les développeurs et ce sera utilisable vraiment en l'état sur les MacBooks, les Macs, tout ça, tout le tralala, en fin d'année. Est-ce que dans mon iPhone, j'ai envie de faire de la génération d'images? Peut-être de la retouche photo à la Google. C'est possible, mais il faut que ce soit parfait. Et on sait que Google, la première fois, ils ont lancé leur gomme magique. Honnêtement, c'était fun, mais c'était nul. Enfin,
oui,
c'était,
mais là, c'est
pas
mieux
bon.
Quand même. Sur les
Pixel 8, c'est vachement bien maintenant. Moi, j'adore.
Pro, c'est pas mal. Ouais.
Mais voilà. Mais chez Apple, il y a toujours ce truc où il faut que l'utilisateur lambda, qui n'est pas un geek comme nous avancé, puisse s'en servir facilement.
Mais là, ils
est-ce qu'ils en
effet,
sont capables?
Là, il y a quand même un côté, un effet d'image aussi. Enfin, je veux dire, Apple,
il faut
ils sont qu'ils clairement...
Le coup, ouais.
Ouais, c'est ça, ils sont en retard. Il faut que,
ah, moi, je pense qu'ils s'en foutent.
Qu'ils envoient
total.
Un truc, quoi. Ouais. Ils envoient un parpaing, là.
D'ailleurs,
ah, moi, je pense
l'IA,
total,
c'est
hein.
pas un... C'est comme l'IA est le nouveau Amazing. Ils n'utilisent pas trop le terme IA dans leur communication, dans leur bouche. Il y a très rarement les dirigeants. Donc, peut-être qu'ils vont acter ce changement-là, comme ça, de manière extrêmement symbolique.
J'attends de voir comment ils appelleront ça.
Ouais, exactement. Moi, je suis sûr, ils vont inventer leur propre terme pour comme ordinateur, je sais pas quoi, spatial. Ça va être, je sais pas, du.
Un autre truc.
Neuronal,
Neural
Engine.
Mais oui, le Neural Engine, c'est un moteur IA, en fait. Les puces, aujourd'hui, on nous parle de puces IA.
Informatique neuronale ou un
mais
truc
ouais,
comme
c'est ça.
Ça.
Mais on nous parle de puces IA aujourd'hui dans les PC. Le Neural Engine des iPhones, enfin des puces
oui,
Apple,
les NPU,
c'est exactement la même chose. Ouais. Mais ça s'appelle, comme tu dis, Neural Engine, Neural machin.
Breveté.
Mais oui.
Belle expression.
Mais pourquoi donner le même nom que tout le monde?
On pourrait consacrer une émission quasiment à deviner le nom.
Mais c'est ça qui est drôle avec eux.
Bon, on va voir si vos boules de cristal disent juste. 7 mai, c'est la semaine prochaine, en fait. Donc, non, c'est dans 2 semaines.
Dans 10 jours.
Dans 10 jours. Dans 10 jours. Bon, on aura l'occasion de débriefer tout ça, évidemment, dans De quoi je me mêle. Merci à tous les deux, et puis voilà, on garde l'enregistrement et on verra si vous aviez raison. Salut à tous.